Salut à toutes, salut à tous. Bonsoir Francis.
Salut oncle Jean-François.
Salut oncle Francis. Alors, vous écoutez le Mandarin Merveilleux, les réducteurs de texte sur RTF 95,4 MHz depuis un certain temps déjà, il faut bien dire. Et ce soir encore, une nouvelle émission avec du jazz, de la musique classique
et des livres.
Alors, je vois que vous avez porté une pile de CD comme d'habitude.
Comme d'habitude, mais vous aussi, je les vois.
Oui, d'accord, mais malheureusement, moi je suis pas comme vous, je n'ai pas pu les faire dédicacer.
Ah ben, c'est vrai que Jean-Sébastien Bach de dédicacer que des 78 tours.
Absolument, et Mozart aussi. Bon, alors et j'ai porté des livres également. Alors, le dernier Modiano, La danseuse, excellent roman, court mais charmant. Et alors, un livre assez étonnant et qui fait assez subtilement le point sur la question du genre. Ça s'appelle « Papa, maman, le genre et moi ».
C'est de qui ?
C'est de Michela Marzano. Je vous en dirai un mot après. C'est une Italienne, mais elle est extrêmement francophone. Alors on la voit de temps en temps dans les débats, et elle a une manière de parler avec un accent qui est assez exaspérante. Mais c'est tout. Il n'y a que son accent qui est agaçant. Mais là, elle a écrit un livre qui finalement relève du bon sens. Voilà.
Bon, alors vous raconterez tout ça tout à l'heure.
Et alors, en attendant, écoutez, on va faire dans les grands classiques et on va écouter l'ouverture de La Flûte Enchantée de Mozart.
Vraiment.
Interprété par le New Philharmonia Orchestra de Londres sous la direction de Alfred Scholz.
Thank you.
Voilà, c'était l'ouverture de la flûte enchantée, die Zauberflöte, de Mozart. Alors Francis, nous allons écouter un peu de jazz maintenant.
Ouais, mais écoutez, avec plaisir. Alors moi, j'ai un beau disque de Stan Getz. Alors, vous savez, dans cette émission, on passe surtout du jazz actuel, des musiciens que l'on peut voir sur scène. Mais de temps en temps, on se fait plaisir et on écoute de glorieux anciens, comme vous, Mozart. Eh bien, Stan Getz, c'est un peu une sorte de Mozart du saxophone.
On peut dire ça.
Alors, j'ai un beau disque qui avait été enregistré en public à Copenhague, dans les années, fin des années 80. Où Stan Getz est avec son complice et ami, le pianiste Kenny Barron. Et je vous propose d'écouter un enregistrement d'un standard qui s'intitule I'm OK. Vous voulez que je vous traduise ?
Je crois que j'ai compris.
Voilà, Stan Getz et Kenny Barron.
Il n'est pas dédicacé celui-là.
Celui-là, j'ai pas pu.
Bon, alors, premier livre de cette émission, donc de Michela Marzano, Papa, Maman, le genre et moi. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est une philosophe, elle est professeure dans une université à Rome, je ne sais plus laquelle au juste, et elle est tout à fait francophone, malgré, je vous dis, un côté assez un peu agaçant, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'elle dit. Alors le titre est assez drôle, encore que il est drôle pour ceux qui connaissent Robert l'amoureux. Ça vous dit quelque chose, Francis ?
Oh, ben oui, bien sûr, Papa, Maman, La Bonne et
La
Moi.
La Bonne et Moi, voilà.
Et c'est une chanson fantaisiste, comique.
Voilà, c'est ça. Mais ça remonte à des époques quand même antédiluviennes.
C'est un peu les années 50, vieux. Ou 60.
Donc, est-ce qu'elle a eu raison de choisir ce titre ? J'en sais rien, puisqu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne dit rien. Mais bon, peu importe. Alors, la question du genre, elle est partie de la constatation d'un certain nombre de phénomènes qui relèvent. Alors, ça a commencé il y a une vingtaine d'années avec la publication d'un livre de Judith Butler, qui est une philosophe américaine, et qui s'appelait Le trouble dans le genre. Et son idée, c'était que le genre et le sexe sont deux choses différentes. Le sexe, c'est anatomique, et le genre, c'est la façon dont on se perçoit, la façon dont la société nous perçoit, et le rôle que nous avons à jouer. Alors, pour la plupart des gens, leur sexe et leur genre sont cohérents. Mais pas tous. Et alors Judith Butler donc expliquait qu'en réalité c'était en gros une construction sociale. Et ça a essaimé partout, et du coup la théorie du genre en est venue par des déformations successives à dire que en fait on pouvait choisir ce que l'on voulait être, quel que soit notre sexe anatomique. Alors vous allez me dire que ça vous semble complètement absurde comme idée, mais c'est peut-être complètement absurde, mais enfin, c'est un phénomène qui se multiplie de plus en plus. Et on constate en particulier qu'il y a eu, alors l'abréviation c'est MTF ou FTM, female to male ou male to female, hein, donc femme qui devient homme ou homme qui devient femme. Juste un chiffre, c'est que l'augmentation de FTM, donc de femmes qui veulent devenir hommes, a augmenté dans les dernières années dans des proportions absolument effrayantes, genre, je crois que c'est 200%, enfin c'est vraiment gigantesque. Alors, Michela Marzano réfléchit sur tout ça, et elle en arrive à ceci, c'est que, en fait, le genre n'est pas ou en tout cas n'est pas forcément une construction sociale, mais surtout ce qu'elle affirme et ce qu'elle démontre assez bien, c'est qu'on ne choisit pas. C'est comme les gens qui sont homosexuels, ils ne choisissent pas de l'être, ils le sont. Souvent, ça leur entraîne des quantités de complications. Pendant très longtemps, les homosexuels, surtout les hommes, vous savez qu'il a fallu attendre 1980, je crois, pour que ce soit dépénalisé. Et il a fallu attendre, même chose, les années 80, pour que l'homosexualité soit retirée de ce qu'on appelle le DSM, c'est-à-dire la liste des maladies mentales. Et donc, elle dit, on ne choisit pas d'être homosexuel. Et de la même façon, on ne choisit pas de se ressentir homme ou femme. C'est une chose que, voilà, alors d'où ça vient, compliqué à dire. Est-ce qu'il y a des données prénatales, d'imprégnation hormonale, de ceci ou de cela? C'est une chose sur laquelle on n'est pas sûr du tout. Hein. Mais enfin, voilà. Et bien entendu, elle en arrive à une conclusion qui est, je crois, de bon sens, c'est qu'il ne faut surtout pas que ça serve de prétexte à discrimination, justement, et à cancel, vous savez, comme disent les Américains. Par exemple, demander l'annulation de tel spectacle, de tel film, de tel livre pour transphobie. C'est-à-dire, si on critique des gens qui eux-mêmes critiquent les tenants de la théorie du genre, eh bien à ce moment-là, il vous arrive plein d'ennuis. Et alors, elle cite l'exemple bien connu de J.K. Rowling, vous savez, l'auteur de Harry Potter. L'auteur de Harry Potter avait déclaré dans un journal anglais, je ne sais plus ce que c'était, mais bon, un journal très célèbre, elle avait déclaré que une femme, c'était une personne avec le matos nécessaire pour fabriquer des bébés, et un homme, même chose. Elle a été mais attaquée pour transphobie, mais avec une haine incroyable. Sa maison a été taguée, etc. Enfin, elle a dû carrément vivre sous protection policière. Et alors évidemment, donc c'est une espèce de folie, de pathologie sociale. Et alors ça se complique parce que il y a par exemple une femme américaine. Alors au départ, c'est un homme, c'est un nageur. Il n'est pas très bon. Il fait de la compète. Il n'est pas très bon. Et alors, il explique qu'en fait, il se sent femme. Et donc, comme il se sent femme, eh bien, il réclame de nager avec les femmes. Mais là, il est bien meilleur, évidemment, parce que les hommes ont une masse musculaire plus importante, etc., etc. Protestation des deux côtés. Vous voyez le genre de bazar, de problèmes sociaux que ça peut entraîner. Alors heureusement, c'est quand même, comme disent les physiciens, pouillem. c'est pouillem des gens. La plupart des gens sont à peu près bien dans leur genre. Et ils vivent une vie normale. Et il y a peut-être pas de quoi faire autant de tintouin sur la question. Enfin, en tout cas, c'est un livre assez facile à lire et qu'on lit avec plaisir. Voilà, Michela Marzano, Papa, Maman, Le Genre et Moi, et c'est aux éditions Albin Michel.
Et nous repartons sur une page classique, s'il vous plaît, Jean-François.
Alors, on va jouer on va écouter une petite sonate de Scarlatti. Y en a beaucoup qui ont... Alors, c'est interprété par Dubrovska Tomzik au piano. Vous savez, sonate de Scarlatti, il y en a, je ne sais pas combien, enfin, c'est épouvantable. Alors là, nous allons écouter la sonate Sol majeur, pardon. Sol majeur, 396.
Voilà. Alors, est-ce un piano forte ou un piano-piano ?
Non, je pense que c'était un piano-piano. Le piano forte a un son un peu différent. Je pense que c'était un piano. Alors, je vous ai dit sol majeur, mais non, c'est bien si majeur. Donc, c'est bien 5 dièses à la clé.
C'est voilà. Étonnant, mais nous vous remercions pour ces précisions.
C'est comme ça.
Merci beaucoup.
Alors,
un peu de jazz.
Et vous savez que dans le jazz, Francis, une manière. Non, mais le jazz est aussi savant et aussi complexe que l'harmonie classique. Et ils ont une manière. Je m'y suis un peu intéressé. Ils ont une manière particulière, mais très savante et très complexe, de noter les harmonies et d'imposer ou d'interdire tel type d'enchaînement. Quand on pense que c'est n'importe quoi, on se trompe.
Il y a toujours une intention. Alors voilà un disque sorti en 2020 chez nos amis du label Laborie. C'est le disque de Eric Seva. Eric Seva qui est un saxophoniste. Et là, il a à ses côtés Kevin Révérend, qui est bien connu des...
Kevin Révérend, qui est très connu,
originaire
absolument.
De la région, oui. Donc à la basse, et qui a aussi produit, mixé et fait les arrangements sur ce disque. Et puis Jean-Luc Difraya, qui est un percussionniste. Voilà, ce trio très original a produit un livre qui s'appelle Triple Roots, Triple Racine. Et je vous propose d'écouter... je crois que j'ai sélectionné le numéro 3 qui s'appelle Résonance.
Thank you.
Jean-François, il est l'heure de nous présenter ce dernier Modiano.
Voilà, c'est le dernier Modiano, La danseuse. Alors, ce livre est délicat et charmant et gracieux comme une danseuse. Et en fait, il s'agit d'une danseuse que le héros fréquente. Alors, fréquente... on ne sait pas au juste quelles sont ses relations avec elle. De temps en temps, il dort chez elle, mais aussi il s'occupe de son fils, qui est un petit garçon qui a une dizaine d'années, qui va chercher à l'école. Et puis apparaissent, alors ce sont bien des thèmes chers à Modiano, apparaissent des gens qu'elle a connus dans le passé, et puis qui soudain ressurgissent. Et il y en a un qui l'aborde à un passage clouté. Il y a aussi des évocations de Paris, et puis aussi de cette banlieue sud-ouest, vous savez, genre Saint-Rémy-les-Chevreuses et la Vallée de Chevreuse, où lui-même, Modiano, a été pensionnaire dans une école. Il n'y a pas vraiment d'histoire, une série comme ça, de tableaux, de souvenirs, d'évocations. Et alors, il n'y a pas d'histoire, et vous savez, c'est Flaubert... C'est Flaubert qui rêvait d'écrire un roman sur rien qui n'aurait pas eu d'histoire du tout. Et c'est ce qu'il avait tenté de faire avec Bouvard et Pécuchet, où il n'y a pas vraiment d'histoire. Là, c'est pareil. Et on ne peut pas raconter l'intrigue, car il n'y en a pas vraiment. Mais c'est d'un charme. C'est agréable à lire. On en lit des pages comme ça, et ça vous donne des impressions tout à fait charmantes, tout à fait agréables. Et c'est ça vraiment, je crois, la littérature. C'est pas alors c'est bien hein, quand ça nous raconte des histoires, je vais pas. Mais voilà, la littérature des évocations comme ça, avec un tel qui l'a connu. Alors avec des gens aussi qui apparaissent, qui sont des vraies personnes qui ont vraiment existé, comme Margot Fontaine. Alors, il nous cite Margot Fontaine, Jean Babilet, Yvette Chauviré, Georges Donne, Béjart, Sonia Petrovna. Voilà, des gens qu'il a connus et qui ont employé la danseuse, dont il parle toujours comme la danseuse. C'est un très beau livre dont je vous conseille, mais vivement la lecture, vous y prendrez un grand plaisir.
Vous voulez pas nous lire un petit
Ah, mais je veux bien vous lire un petit papier. Vous savez, moi, je suis pas un très
le
bon
lecteur. Le début, les premières
lignes. Moi, je suis pas un très bon lecteur. Alors, je fais ce que je peux, mais vraiment. Hein. Alors, ben, et vous allez avoir toute l'atmosphère. Brune, non. Plutôt châtain foncé avec des yeux noirs. Elle est la seule dont on pourrait retrouver des photos. Les autres, sauf le petit Pierre, leurs visages se sont estompés avec le temps. D'ailleurs, c'était un temps où l'on prenait beaucoup moins de photos qu'aujourd'hui. Et pourtant, certains détails demeurent assez présents. Il faudrait faire une liste, mais il serait très difficile de suivre l'ordre chronologique. Le temps qui a brouillé les visages a gommé aussi les points de repère. Quelques morceaux d'un puzzle séparés les uns des autres, pour toujours. Voilà, c'est de la littérature.
Alors, donc, La danseuse...
C'est chez Gallimard, c'est chez Gallimard, bien sûr, de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Et quand je pense que j'ai été payé pendant des années pour expliquer des textes pas toujours aussi beaux que ça, mais enfin, dans l'ensemble, pas trop mal, ben je me dis que j'ai eu de la chance.
Thank you.
C'est donc une valse.
Oui, c'était une valse de Strauss, une des plus jolies, je trouve, qui s'appelle Rose du Sud. Voilà, Rosenhaus dem Süden, pour les germanistes. Voilà, opus 388, et interprété par l'orchestre du Volksoper de Vienne, dirigé par, je vous jure que c'est vrai, par quelqu'un qui s'appelle Peter Falk.
Oui.
Alors, je crois que c'est Peter Falk. Ça peut pas être lui, évidemment. Ça ne peut pas être l'inspecteur Colombo.
L'inspecteur
Encore
Colombo.
On ne sait pas. Ah. On ne sait pas. Bon, un petit jazz quand même pour.
Jazz ou pas
la
jazz.
Ah.
C'est notre ami Cordéon.
Oui, c'est très très bien ça. Est-ce qu'il va revenir, vous savez ça?
Ah ben, écoutez, il tourne un peu partout en Europe. Mais l'année dernière, cet accordéoniste qui joue du jazz et puis plein d'autres choses, comme par exemple du fado ou plein d'autres styles musicaux, originaire du Portugal, que nous avait présenté notre ami Walter, bien sûr, Walter, qui anime...
Qui fait le top du Portugal le dimanche matin.
Alors non, il le fait plus. C'est,
ah non, il fait
il,
samedi...
Il fait le stand live. Il fait le live du samedi.
Le live du samedi. Non, attendez, ça s'appelle, pour de vrai...
Le live du samedi.
Oui, mais y a cette émission a un autre nom.
Ça s'appelait l'Instant Live, mais il ne faut pas le dire.
L'Instant Live, bien sûr qu'il faut le dire.
Alors voilà, donc l'année dernière, au cours du festival Éclat d'émail, Cordéon s'est produit à la BFM de Lorence, à côté des studios de RTF, et on est allé l'écouter avec plaisir, évidemment. Et c'était très sympa.
Très, très
parce
sympa.
Parce qu'il a joué tout ce répertoire un peu du monde entier. Le public qui était là, c'est les gens qui vont à la médiathèque chercher des bouquins, chercher des disques et tout. Il y avait plein de monde, tout le monde était ravi d'entendre de la musique, là il n'y a pas qu'à l'Opéra Théâtre ou dans les beaux quartiers, on peut s'exporter un peu dans des quartiers comme la Zup de Lorence, tout le monde était très 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 content, et Cordéon est un gars extrêmement sympa, en plus d'être très très talentueux. Alors je vous propose, j'ai choisi un titre qui s'appelle Les Secrets de Lisbonne, Segredos de Lisbonne.
Vous avez un accent portugais,
j'espère
un
que...
Un peu brésilien, hein?
Oui, c'est ça, il y a une petite...
Mais mélange de brésilien et de capverdien. Bon. Alors, on écoute les secrets de Lisbonne.
Thank you.
Voilà, c'est terminé en tout cas pour cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine sur RTF, Radio Trouble Fête, 95,4 MHz, pour écouter un nouveau mandarin merveilleux réducteur de texte. Merci Francis pour cette impeccable réalisation technique et pour votre excellent jazz, surtout le dernier que j'ai beaucoup aimé, qui n'était pas vraiment du jazz, mais
c'est pour
bien
ça
quand
que vous
même.
L'avez aimé. Mon
bon, voilà. En tout cas, bonsoir à tous et bonsoir à toutes.
Salut Jeff, à la semaine prochaine. Thank you.